Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà. Alors, on va ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Luc. Et on va prendre un texte que nous lisons certainement fréquemment parce que ça fait partie des textes importants. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 40, c'est une histoire bien connue. Et on va pouvoir peut-être nous diriger vers ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, c'est-à-dire d'excellent. Et la méditation que je vous propose ce matin, je vais tout simplement l'intituler « L'excellence de la foi ». Alors vous savez, on peut y revenir très très souvent sur la foi, parce que c'est un élément essentiel de notre vie spirituelle. Il nous est dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alors on va encore et toujours revenir sur ce sujet, et peut-être que ça peut être une réponse pour certains d'entre nous, et en tous les cas c'est un enseignement pour tous, devant des préoccupations, des questionnements, des perplexités. Et bien voilà, nous allons avoir un exemple d'un homme. Je citerai deux hommes de toute façon, mais le premier, on va le suivre dans son cheminement pour atteindre l'excellence de la foi. Il s'appelle Jaïrus. Et Jaïrus, ça veut dire celui qui éclaire. Alors il va marcher devant nous, il va nous éclairer pour nous montrer que dans ce processus, ce grand processus de la foi qui permet à Dieu, eh bien, de nous agréer dans nos prières et dans nos demandes, et c'est lui qui va donc ouvrir le chemin, il va nous montrer que eh bien, il y a parfois des obstacles, il y a parfois des contretemps, il y a des dissuasions, il y a des renversements qui peuvent se faire au niveau de nos âmes, de nos cœurs. Et en cela, eh bien, il a été jusqu'au bout. Et il a entendu une parole tout à fait particulière qui va être le sujet de notre réflexion, quand Jésus lui dira « Ne crains point, crois seulement ». Alors, on va aller dans ce sens, et puis on va donc ouvrir notre Bible, et on va lire à partir du verset 40. Il nous est simplement rappelé, en ce qui concerne Jaïrus, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient, et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et on va reprendre au verset 49, hein, parce que dans l'intermède, il y a une femme qui va arrêter Jésus, qui va arrêter Jaïrus, tout un cortège qui va faire obstacle. Ça va durer certainement eh bien quelques minutes. Et tout ça, c'est du temps perdu lorsqu'il y a une urgence pour une enfant qui est en train de se mourir. Il faut faire vite. Donc, un contretemps de Dieu qui est quelquefois très dissuasif par rapport à notre foi. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors voilà pour ce texte. Et ce fameux Jaïrus, celui qui éclaire, celui qui nous éclaire encore, après des centaines et des centaines d'années, il reste encore, eh bien, un exemple d'une grande foi. D'une foi qui peut nous servir encore aujourd'hui, par-delà les défis qui nous sont lancés, que nous pouvons connaître, en d'autres la mort. Jaïrus, donc, va rester dans les annales, et il est cité dans trois des évangiles, trois des quatre, hein, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, celui que nous avons vu aujourd'hui. Et il nous parle encore très fort parce que il nous dit que s'abandonner totalement entre les mains de Dieu, c'est véritablement gagner. C'est véritablement, eh bien, remporter les victoires et l'exaucement de nos prières. En faisant la volonté de Dieu, même si cette volonté de Dieu quelquefois nous échappe, en raison de toutes sortes de circonstances extérieures, souvent négatives, quelquefois profondément négatives, mais de toujours avoir les yeux fixés sur celui qui nous a fait la promesse. Nous voyons que Jaïrus vient solliciter Jésus, Jésus entend sa détresse, entend sa prière, il se met en chemin, mais sur ce chemin, avant d'atteindre la maison et de rentrer dans cette chambre où se trouve cette petite fille qui n'est plus malade, mais qui est morte, alors il va y avoir tout un périple. Et je pense qu'il faut le dire, il y a la contrepartie de tout cela, la foi qui triomphe, mais voilà les obstacles majeurs qui font se dresser, qui fait barrière à devant la puissance infinie de Dieu, et c'est un nom contraire à la foi, ça s'appelle l'incrédulité. Donc, nous avons affaire à deux forces antagonistes. Il y a la foi qui puise toutes ses ressources dans l'invisible. Nous ne savons pas, nous n'avons pas de preuve, mais nous le croyons. Et puis il y a son contraire, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, tout ce qui est intériorisé, nos pensées, nos sentiments, à travers les impressions que nous pouvons ressentir dans notre âme, à travers tout ce vent et cette tempête qui souffle autour de nous, qui nous amène à l'incrédulité, pas seulement au doute, mais à l'incrédulité qui se dit « mais c'est pas possible, qu'est-ce que l'on peut faire avec quelqu'un qui est mort, il est mort, il n'y a rien d'autre ». Alors c'est un cas extrême qui nous est pris, c'est comme l'histoire du Gadarénien possédé d'une légion de démons. Il y a quelques textes comme ça dans la Bible qui poussent les choses jusqu'à l'extrême pour nous dire « mais continuez à croire, continuez à faire confiance à Dieu et vous allez voir ». Et cette incrédulité, Jésus la rencontrera auprès de ses disciples, notamment auprès de trois disciples, ceux que l'on appelle les disciples d'Emmaüs, mais c'est vrai que la raison peut défaillir à ce moment-là, parce que ils avaient vu Jésus crucifié, mais ils ne l'avaient pas vu encore ressuscité. Et ils s'étaient dit, bien, comme il est mort, il est mort. Il n'y a plus rien à attendre. Ils s'en allaient tout tristes, finalement, dans leur village d'Emmaüs. Et Jésus, en cours de route, leur dira, alors qu'ils ne l'ont pas encore reconnu, qu'ils cheminent, qu'ils parlent ensemble, mais ils ne l'ont pas encore reconnu, il dira, mais ô homme dont le cœur est lent à croire, leurs yeux, leur cœur, étaient empêchés de le reconnaître naturellement. Et dans une autre circonstance, dont nous parlerons tout à l'heure, nous avons également Pierre le téméraire et l'impétueux, qui va dire à Jésus, eh bien écoute, si c'est toi, hein, eh bien je vais aller vers toi en marchant sur les eaux, enfin en venant vers toi, parce qu'il avait vu Jésus marchant sur les eaux, et à un moment donné, eh bien, Jésus dira à tous ces hommes dans la barque, mais on peut comprendre qu'il y avait des vagues, hein, et il leur dira, mais pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi? Alors, Seigneur, ça nous fait un petit peu trembler tout cela, parce que devant de telles circonstances à l'extrême, poussées au maximum, ben, est-ce qu'il n'est pas quelquefois très humain et très naturel de douter? Alors on va voir que certainement dans cette situation, ça n'est pas dit, mais Jaïrus a dû douter plus d'une fois dans son périple pour rejoindre avec Jésus, eh bien, la chambre de son enfant qui était mourante et qui était à ce moment-là, eh bien, morte. Donc, c'est un encouragement ce matin à croire jusqu'au bout. À croire peut-être jusqu'à la dernière limite. C'est-à-dire que nous disons c'est fini, mais Dieu nous dit, mais c'est pas encore fini parce que moi j'ai pas dit le dernier mot. Alors, c'est sûr que tout cela, eh bien, ça nous laisse réfléchir. Et la dernière limite, pour nous les hommes, c'est là où se brisent toutes les ressources humaines auxquelles nous pouvons recourir. C'est du sauf qui peut. Et on tente mille et une choses dans la fébrilité, dans la folie, l'agitation, dans les frayeurs. Parce que les dernières ressources humaines, ou la dernière, c'est quand la mort est prononcée à ce moment-là. Il ou elle, mort ou morte, naturellement. Alors c'est la foi qui fait la différence entre le monde de la nature, qui nous appartient, dont nous sommes dedans, et celui de l'esprit. Et notre positionnement, eh bien, c'est véritablement un positionnement de foi qui n'est pas une croyance, qui n'est pas un simple sentiment religieux, mais qui est la foi de l'esprit, la foi qui nous vient par la parole et éclairée par l'esprit de Dieu. C'est une grande différence, et on va l'expliquer d'ici quelques instants. On sait que le monde et les hommes ne peuvent rien contre la mort. Depuis des siècles et des siècles, des gens compétents, des gens savants luttent, et encore aujourd'hui, contre la mort pour que les gens ne meurent pas. Alors on prolonge, et c'est heureux naturellement, mais on n'a rien fait, on ne peut rien faire contre. Sinon s'incliner lorsque la nature a parlé, et parce que cette nature même, elle est gérante de la vie. Eh oui, parce que nous sommes enfermés dans un monde, nous sommes là dans des êtres dans un corps, avec tout ce qu'il peut y avoir de vicissitudes et de dangerosité et toutes sortes de choses. Alors, c'est la nature qui gère tout ça, parce que nous avons été faits pour être, notre carrière humaine a été lancée, finalement, dans cette nature que Dieu a créée. Et il y a la mort qui, naturellement, fait partie. Et si cette nature est gérante, en quelque sorte, de la vie, elle ne possède aucun pouvoir contre la mort. Eh oui, il n'y a rien, il y a des soins, il y a toutes sortes de choses, mais hors la nature, je voudrais quand même le rappeler ce matin, elle meurt tous les jours. Elle est faite de vie. Tous les jours, il y a un jaillissement de vie, que ce soit chez les êtres humains, que ce soit chez les plantes, que ce soit chez les animaux. Il y a des millions et des millions d'êtres qui naissent tous les jours. Et puis finalement, eh bien, il y a son pendant, son contraire. Alors, tout cela, eh bien, ça nous échappe et il nous est dit que cette nature-là, elle soupire. Elle soupire après la liberté des enfants de Dieu lorsque Christ reviendra remettre les choses en ordre. Et nous sommes dans un monde de désordre. Et la mort, c'est quand même un désordre. C'est un fracas. C'est quelque chose qui nous trouble. Imaginez-vous cette famille de Jaïrus, quand il a appris que sa petite fille, il avait certainement, je ne sais pas si c'était une maladie chronique ou si c'est une maladie brutale, accidentelle, mais toujours est-il qu'ils ont dû espérer dans l'instant ou dans le moment ou dans les heures ou dans les jours. Et ils se sont dit, mais elle va vivre. Et quand ils ne voulaient pas penser qu'elle pouvait mourir, imaginez-vous, c'est quelque chose de dramatique. Alors cette nature dans laquelle nous sommes, eh bien, comme dit Paul, elle soupire et elle attend une délivrance. À l'inverse, le monde spirituel détient le principe de la vie que nous oublions parce que nous ne le voyons pas. La nature, nous la voyons, nous la sentons, nous sommes incorporés à elle, nous vivons avec la nature. Mais il y a le monde de l'esprit dans lequel nous sommes rentrés par la nouvelle naissance, par le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est ça. Hein? Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, eh bien, il y a eu quelque chose qui a changé. Même notre approche de la vie et de la mort, toutes sortes de choses. Alors, ce monde spirituel, lui, possède. Dieu l'a mis dedans, c'est un principe immuable, c'est un principe éternel. Il a le principe de la vie même. Et le Dieu créateur tout-puissant, qui est à l'origine de l'animation. Quand nous lisons le livre de la Genèse, il nous est dit que quand il a créé l'homme, il a soufflé un souffle. Et il devint une âme vivante. C'est ce souffle de Dieu, c'est l'esprit. Et nous voyons que celui qui a été capable d'animer la création, la nature, et c'est le texte qui nous le montre, peut ranimer. Si ça a été animé, ça peut s'éteindre, mais ça peut être ranimé. Ça, c'est important, les mots. Hein. Et redonner la santé perdue, tout simplement. Ouvrir, ou encore réouvrir les yeux que la mort a fermés. Je fais bref, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas oublier, et souvent nous oublions parce que nous sommes environnés d'un monde qui est tellement captivant, prenant. C'est le monde des hommes, c'est le monde, c'est le caractère même d'un monde d'incrédulité, un monde athée, mais pour nous c'est différent. Et je voudrais souligner ce matin que nous avons besoin de mettre cette première notion, de revoir cette notion avant tout le reste. Nous sommes sur la terre, mais nous vivons finalement d'une dimension spirituelle, d'une dimension de l'esprit. Et ça, ça change tout pour nous. Hein. Nous pouvons avoir des tribulations, nous pouvons connaître ce que connaît Jaïrus. Mais à ce moment-là, nous avons un espoir qui est plus grand que ce désespoir de la mort et de la nature. La mort et la nature. Le monde de Dieu, Jésus le dira à Jaïrus, c'est le monde de l'impossible. Alors, je ne voudrais pas faire crier quelqu'un, mais l'impossible appartient au Seigneur. C'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. C'est comme ça que nous le retenons. Et ça devrait peut-être nous réconforter de ne pas nous lamenter et de ne pas nous décourager, démoraliser au point de dire « Dieu ne peut rien faire ». Dieu est le Dieu de l'impossible et il a rendu finalement ce monde spirituel, il l'a rendu accessible par un moyen, c'est basique, hein, mais c'est par le moyen de la foi. La foi, c'est la main qui touche l'invisible, c'est les yeux qui voient dans l'invisible, c'est la main qui touche finalement le ciel. Jaïrus en fait l'expérience et il en donne la démonstration, alors nous allons le suivre brièvement. Jésus n'a jamais agi qu'avec deux forces. Jésus n'est pas un magicien. Il n'est pas à recourir à toutes sortes de passe-passe, excusez-moi l'expression, c'est trivial. À faire des choses, incantations et autres, comme le monde de la nature qui s'imprègne ou s'inspire de l'occultisme. Non, Jésus a agi par deux choses, deux forces. Elles sont à la fois éternelles, elles sont immuables, et elles demeurent, et nous les percevons à travers la lecture des textes. Puissance infinie de l'Esprit de Dieu est première chose, et celui de l'amour. Jésus s'est toujours appuyé avec cette dimension de la foi, l'esprit de foi, et également, quand il a fait des gestes et des actes, libérateurs de délivrance, de résurrection, de transformation, de changement de ceci en cela, d'un état à un autre, il a bouleversé l'ordre, défait le désordre qui était installé pour le remettre dans l'ordre. Et il a agi à la fois par la puissance de l'esprit, et il a agi par un acte d'amour. Ce n'était pas de la démonstration, c'était pas pour faire de l'exhibitionnisme. Et on sait très bien que quand Jésus touche l'un ou l'autre, le lépreux en particulier, homme redoutable qu'on ne touche pas, peut-être contaminé ou contaminant, eh bien il pose sa main, il se contente pas de lui dire une chose, il pose sa main. Ça c'est la compassion. Et il faut dire que nous avons encore ces deux dimensions à notre portée si nous voulons vraiment les croire. Que Dieu agit par l'esprit, et c'est seulement par son esprit qu'il agit, ça vient pas d'ailleurs, et que c'est aussi dans son amour, parce que Dieu nous aime. S'il nous guérit, c'est parce qu'il nous aime. S'il nous délivre, c'est parce qu'il nous aime. S'il fait ceci et cela pour nous, c'est parce qu'il nous aime. S'il ouvre une porte pour une entreprise parce que nous n'avons pas de travail, c'est parce que Dieu nous aime. S'il nous bénit dans nos familles et dans nos couples, c'est parce que Dieu nous aime. Il n'y a pas d'autre raison. Et ça, c'est absolu. Lorsque nous avons une foi posée sur cela, eh bien, nous n'avons plus à avoir de crainte ni de peur. Pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi ? Dira Jésus. Et ça vaut pour nous aussi, hein, naturellement. Vous pensez peut-être au moment où je suis en train de vous parler à votre propre problème. Peut-être certains ont pleuré cette semaine, moi j'ai vu quelqu'un pleurer cette semaine. Mais d'autres choses, d'autres situations, eh bien écoutez bien. Parce que la solution, elle est dans la parole de Dieu et nous allons voir ce que ça veut dire. Dans ce récit, nous avons une preuve patente. La compassion divine de Jésus qui se penche sur la douleur d'une famille, c'est une enfant mourante et il va faire un double miracle. Jaïrus était venu dès l'abord pour rencontrer Jésus pour qu'il fasse un miracle. Viens dans ma maison parce que ma petite fille est mourante. Impose-lui les mains, nous dit un autre texte. Ça, c'est le premier. Mais nous voyons que non seulement il va faire cela, mais il va rendre la vie en santé, parce qu'elle ne va pas ressusciter malade comme elle l'était auparavant. Il va rendre la vie et lui donner la santé, un corps condamné à mourir, et il ne va pas se contenter de cela, puisque la petite fille est morte, il va ressusciter son âme, son corps et son âme. C'est véritablement le Waterloo de la raison. Hein. On se dit, qu'est-ce que l'on peut comprendre avec tout ça ? La part humaine est renfermée dans cette parole sublime que je voudrais que si vous retenez quelque chose simplement de ce culte, écoutez bien ce que dit Jésus, ne crains point, crois seulement. Est-ce que nous sommes disposés véritablement à aller dans ce petit créneau, cette petite fenêtre, ne crains point, crois seulement. Est-ce que quelqu'un est venu avec la crainte dans son cœur ce matin ? Je peux penser qu'il y en a. Ça, c'est possible. Et Jésus dira à la contrepartie, mais crois, crois seulement. Quelle est cette force irrésistible qui renverse l'insurmontable? Cette force, nous l'avons déjà dit, je l'ai déjà multiplié dans les mots ce matin, c'est la foi. C'est cette confiance totale en Jésus, tout simplement. Alors voici une image pour comprendre le sens de ce que Jésus a opéré ce jour-là. Et ce qu'il opère encore aujourd'hui. Nous sommes bien placés pour savoir ce que c'est. Une plage. À Saint-Nazaire, et puis dans toute la côte, il y a des kilomètres et des kilomètres de plage ici. Hein. Quand on pense les recoins, des criques et tout ça, je pense que ça en fait certainement plusieurs centaines. Il y a d'un côté la terre ferme, je suis sur la plage, il y a la terre ferme, solide, bétonnée, c'est pas le plus beau, hein. Mais toujours est-il que c'est la fermeté. Et en face, il y a la mer qui se perd à l'infini. C'est toujours très agréable ce paysage, hein, et on se ressource dans ce. Et puis il y a l'entre-deux. Alors l'entre-deux, je vais vous expliquer ce que ça peut être. C'est l'homme ou la femme, c'est le baigneur, par exemple, on peut l'appeler comme ça, je trouve le terme, qui est dans cette zone, en quelque sorte, où l'on est déjà finalement dans l'eau, parce qu'on a de l'eau jusqu'ici ou de l'eau jusque-là, sans toutefois avoir quitté la terre ferme, parce que bon, on marche sur la plage encore. Vous voyez un peu ce que ça peut dire, hein. J'ai derrière moi la terre ferme, devant moi c'est l'océan, et moi je suis immergé, peut-être jusqu'à mi-corps tout simplement. Et on dit à ce moment-là qu'on a pied. Et pour ceux qui sont pas très courageux comme moi, j'ai l'expérience, quand je vais un peu plus loin, je laisse l'eau monter, j'avance hein, dans l'eau, puis à un moment donné, bon là ça me dérange pas, hein, jusqu'ici ça va, je peux plus parler à ce moment-là quand ça arrive ici. Mais il faut pas que ça dépasse là, hein, parce que je suis pas un amphibien. Et à ce moment-là, je vais encore aller un peu plus loin avant de me lancer. Je sais nager quand même, hein. Mais avant de me lancer, je suis encore rassuré, vous comprenez. Je vais encore un peu plus loin, c'est le bout des pieds. Et hop, j'ai peur, je reviens. J'allais quand même pas traverser l'Atlantique pour vous faire plaisir. Mais bon, toujours est-il que c'est une image que je suis en train de prendre de nos réactions que nous pouvons avoir. Tant que j'ai pied, je suis rassuré. Il y a encore la terre. Ah, ça me rassure. Ceci illustre le comportement humain face à l'appel de Dieu à lui faire totalement confiance. Nager, c'est comme apprendre à faire du vélo. Vous savez que quand vous faites du vélo, vous êtes sur une petite bande, et ça dépend le genre de vélo, mais vous êtes sur une petite bande de 1 cm, 2 cm de large. Et on se dit, et vous savez, pour bien tenir, pour faire avancer, et puis pour tenir sur le vélo, il faut que vous pédaliez. Si vous restez comme ça immobile, là vous allez tomber d'un côté ou d'un autre. C'est une image peut-être saugrenue, mais ça quand même, ça montre un petit peu certaines réalités. Et la baignade, c'est la même chose. C'est un abandon. C'est se livrer. Voilà. Et j'éprouve une satisfaction formidable quand le vélo avance. Si je regarde pas devant moi, je prends... Mais il faut continuer à pédaler. Et puis là, autrement, le risque, c'est la noyade, naturellement. Hein, mais je n'ai plus pied, mais j'avance quand même. C'est tout simplement faire confiance totalement et s'abandonner complètement. Donc, on va décrypter un peu tout ça, la terre ferme, c'est une réalité pour moi, pour les hommes, quelque chose de visible et de tangible. Je le sais, je suis rassuré, c'est mon habitat, c'est mon élément de prédilection naturellement. Et je suis en sécurité. Le Seigneur nous dit, sors de la barque et avance un peu. C'est terrible. On conclura là-dessus, vous verrez. C'est la sécurité. Je ne vais pas me mouiller davantage parce que je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr de quoi? Je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr surtout de Dieu. Quand il me dit d'avancer en pleine eau, l'entre-deux. Alors on va voir, c'est encore une autre zone ça. L'entre-deux, ce sont un peu le monde de la croyance ou des croyances diverses qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que je ne prends pas de risque. Je veux bien croire que Dieu existe. Bon, c'est certainement une réalité. Hein. Certains le disent, je veux bien le croire. Mais c'est pas parce que Dieu que certains le disent que je dois croire. C'est parce que Dieu me dit qu'il existe. Vous savez, c'est une zone, une zone un petit peu le no man's land. Et à ce moment-là, ça fait partie, je rentre dans le monde et l'univers du doute. Je suis pas sûr de l'avant, je suis pas sûr de l'arrière, de ce qu'il y a en haut, de ce qu'il y a en dessous. Et quelquefois, c'est même le monde de la superstition. Je touche du bois. Vous voyez qu'il m'est arrivé un malheur? Alors, vous comprenez, les gens, ils ont toutes ces réflexions, même des incroyants, hein. Même des gens qui ne croient pas en Dieu disent « je touche du bois ». C'est le monde du doute, de la superstition, de toutes sortes de choses. Et puis, il y a la pleine mer. Il y a la pleine eau qui imagine la foi qui, ou quelque part, qui n'a pas d'appui. C'est l'eau. Moi, je suis pas un poisson. Je suis un homme qui n'a pas d'appui seulement. Et elles ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles, ces appuis, seulement les affirmations de la parole de Dieu. Sur ce qu'il me dit, avance, fais confiance, je te porte, je te porterai sur mes mains. Alors je voudrais dire tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la foi n'a rien à voir avec une croyance et une témérité que nous connaissons quelquefois et qui n'a rien à voir, hein. Parce que ça, c'est la troisième tentation que Jésus a entendue de la bouche du diable. Monte en haut de la tour du temple et jette-toi dans le vide, tu verras, parce que Dieu t'aime, il va te récupérer en bas. Ben, peut-être qu'on peut se récupérer aux urgences, hein. C'est de la témérité, c'est pas de la foi. Je reviens sur le... C'est les affirmations de ce que la parole me dit, ce que Dieu m'assure. Sur la terre ferme, l'homme ne se mouille pas et il s'exprime de cette manière, tout simplement, eh bien, je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que ce que j'entends, ce que je sens et ce que je ressens. C'est la première dimension. La deuxième image, eh bien, c'est celle-ci. L'homme qui est entre deux, il pense au ciel. Je dis qu'il pense au ciel, c'est peut-être la raison la plus juste. En se réservant de ne pas s'aventurer trop loin et de ne pas s'aventurer trop en avant. Il veut avoir une assise, vous comprenez? Il se dit, ben, de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, hop, je me rattrape. Mais on se rattrape en bas ou on se rattrape en haut? Toute la question, naturellement, est là. Et on s'aperçoit que il veut toujours garder le contact avec la terre. Ça, c'est la deuxième proposition. Il évolue, il oscille dans les vagues de toutes sortes d'espérances supposées, des situations aléatoires qu'il peut évoquer, et sans réelle certitude. Et il dit très souvent, comme beaucoup de croyants le disent, pas des chrétiens mais des croyants, j'espère, si ceci, si cela, peut-être que Dieu fera quelque chose. C'est le flou, comprenez? Et puis il y a la troisième image, troisième zone, c'est Jaïrus. Et il est intéressant. Vous savez, Jaïrus, c'est celui qui éclaire. Et pour éclairer, on éclaire toujours. La lumière se voit que quand il y a une grande nuit, une nuit noire, on ne prend pas une pile électrique au zénith du soleil en plein été, ça ne sert à rien. Non, mais justement, lui, il a un nom très, très significatif, celui qui éclaire. Alors il va nous éclairer dans sa nuit. Et peut-être il peut nous éclairer aussi dans notre nuit à chacun. Alors à ce moment-là, donc, l'homme s'élance dans une confiance éperdue. Il a confiance en Dieu. Et cette confiance, c'est pas lui qui se l'est fabriquée par de l'autosuggestion, je crois, parce que ça vaut rien du tout. Mais c'est parce qu'il a lu la Bible. Parce qu'il s'est intéressé finalement à ce que Dieu dit dans telle ou telle position, situation. Il a demandé à Dieu, Seigneur, fais que ma foi puisse grandir, qu'elle se développe. Alors ça se passe avec des cris, ça se passe peut-être avec des soupirs, avec toutes sortes de gémissements, et à travers une école dans laquelle nous apprenons à marcher avec Dieu sans le voir. La seule preuve que nous avons, c'est que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Alors, elle est totale, elle est sans restriction, et à un moment donné, il se laisse porter, tout simplement par la main de Dieu. Il est soulevé. Et là, il va trouver une dimension qui n'est plus les vagues, le vent, la violence de ceci et cela, il va se retrouver dans la paix. Parce que la foi, la caractéristique de la foi, c'est la paix, et c'est le repos en Dieu. Ouais. Il y a tant de gens qui, dans notre monde, prétendent « j'ai la foi », et quand on les voit se débattre dans leurs problèmes, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la tristesse, ils sont dans toutes sortes d'agitations, et ils courent de droite et de gauche pour en sortir. Mais ça, c'est pas la foi, c'est encore la position de l'homme de la seconde zone, vous comprenez? Voilà. Il voit s'il a toujours pied. Il ira pas plus loin parce qu'il se dit, je vais me noyer. Tout simplement. Parce que c'est Dieu par son esprit, qui inspire et qui dirige les pas de l'homme vers le salut, dans la généralité parce qu'il est sauveur, mais vers la délivrance, comme Jaïrus, vers la guérison. Et combien Jaïrus a dû revenir et s'appuyer combien de fois? 5 fois il a dû s'appuyer et revenir devant Dieu. La première fois, c'est parce que quand Jaïrus est venu le chercher pour lui dire « Viens dans ma maison parce que ma fille est à l'extrémité », il y avait une foule tellement grande, vous relirez le texte, hein, mais tellement énorme que on pouvait plus frayer un chemin, un obstacle finalement à cette délégation de Jésus avec ses disciples d'aller vite et rapidement porter secours à cet enfant. Après, il y a eu la femme à la perte de sang. Elle a arrêté le cortège pendant un moment. Elle était malade depuis 12 ans. L'enfant était malade et elle était à la mort. Ben, on choisit. Elle pouvait attendre encore peut-être quelques temps davantage. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Et pourtant, Jésus va s'arrêter dans sa compassion pour guérir cette femme avant d'aller au secours de cette petite morte. Enfin, de cette petite fille qui était à mourir. Les contretemps de Dieu. Après, on est venu dire à Jaïrus, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que maintenant, les serviteurs de sa maison parce que ta petite fille est morte, c'est pas la peine. Ouais, c'est perdu. Quand on est mort, hein, y a plus rien à faire. Ça, c'est l'obstacle de la raison, vous comprenez? C'est l'effondrement. On se dit, bah oui, c'est la logique. Si elle est morte, pourquoi Jésus va venir jusqu'à la maison? Puisqu'elle est morte, qu'est-ce que va faire Jésus? C'est le doute, hein. Et puis après, c'est l'obstacle des sentiments. Tout simplement, parce que quand il est arrivé Jésus et Jaïrus, tout le monde dans la cour pleurait la mort de cet enfant. C'est l'obstacle des sentiments qui virent, qui chavirent, parce qu'ils avaient vu, parce qu'ils avaient entendu tout cela. Et après, ça a été l'obstacle de la moquerie, puisque quand Jésus a voulu rentrer dans la chambre, on est venu lui dire « Mais elle est morte !» Jésus dit « Non, elle n'est pas morte, elle dort. » Et il nous est dit après, tous les gens se moquaient. Ce sont des obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, les uns et les autres, hein. Quand on veut aller vers un but, quand Dieu nous a dit dans notre cœur, ne crains point, crois seulement, parce qu'il y a quelque chose pour toi, et vous allez voir que quelquefois ça part de très bas, d'une désespérance, d'un désespoir, et ça monte très haut. La gloire de Dieu se manifeste d'une manière glorieuse, c'est ce qui s'est passé dans ce texte, hein. Écoutez, dans Ésaïe, il nous est dit cette belle parole, vous la connaissez, mais je vous la rappelle à dessein. « Oh, si tu étais attentif à ma parole, à mes préceptes, à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Que de tourments nous nous donnons, que de perturbations nous nous infligeons et de souffrances dans lesquelles nous nous renfermons. Si tu étais attentif à ma parole. » On peut écouter la parole en tant que chrétien, on peut l'écouter en assemblée, on peut l'écouter, on peut la lire tous les jours. Mais Jésus nous parle de quelle attention? Est-ce que c'est un devoir? Ou est-ce que c'est une obligation morale ou religieuse? Ou est-ce que véritablement dans mes besoins, je prends la parole et je dis « Seigneur, parle-moi aujourd'hui ». On a fait beaucoup d'expériences comme ça les uns les autres, hein. Et ça n'a pas manqué, le Seigneur nous a amenés là où nous avions besoin d'être amenés. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires où, sans y penser à l'instant d'avant, dans une détresse ou dans une difficulté, une affliction, Dieu m'a conduit vers une parole qui était la parole, qui était nécessaire pour faire relever ma foi, enfin élever ma foi. Et aujourd'hui, je m'en souviens encore de ces paroles, si ça fait 10 ans, 20 ans ou 30 ans, parce qu'elles ont marqué ma vie. Une parole de Dieu, une parole de vie. Une parole qui prépare. Eh bien, aller plus loin, alors que peut-être j'étais là à m'arrêter sur le bord du chemin en disant arrêté par ma logique, arrêté par mes sentiments, arrêté par le « qu'en dira-t-on », la moquerie des autres, arrêté par toutes sortes de choses qui envahissaient ma vie, et je pouvais plus avancer. Une parole est venue, comme Dieu dira à Élie, « Maintenant, sors de ta caverne, Élie, de ta nuit noire, et maintenant, va, lève-toi et va. » Et après, vous savez ce qui lui est arrivé à Élie, hein. Il pensait qu'il était en chômage. Il a eu du travail, hein. Alors, mes frères et sœurs, ne crains point, ne craignez point, croyez seulement. Ces deux mots, cette expression, est-ce que nous sommes prêts véritablement à entendre les paroles de Jésus? Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin d'entendre cela, et j'insiste. Ne crains point, parce que la dominante chez toi, c'est la peur. C'est très humain, c'est naturel, mais c'est la peur. Et Jésus nous dit la contrepartie nous donne le remède. Crois seulement. Seigneur, comment puis-je croire avec la situation dans laquelle je suis? Mais tout me tombe sur la tête. Tout le monde est contre moi. Et ceci et cela. Et puis tu vois, Seigneur, je suis malade. Moi, on me donne des diagnostics. On me dit où j'en suis rendu. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais écoutez, si les hommes disent quelque chose, c'est peut-être pas pour ça qu'il faut se fermer les oreilles, mais donnez la priorité au Seigneur. Donnez la priorité à ce qu'il vous a donné comme promesse. Tu vivras. Tu sera ceci, tu deviendras cela. Mais le Seigneur a des plans pour chacun d'entre nous, hein. Alors avance. Jaïrus est venu appeler Jésus pour une guérison, et il est reparti avec une résurrection. C'est une frontière qui est quand même assez délicate. Seigneur, si tu veux me conduire dans ma situation jusqu'au pied d'eux, c'est dur. Bien sûr que nous croyons en la résurrection. Bien sûr que nous croyons en cela, parce que c'est une vérité capitale. Dans le message de l'Évangile, Jésus est ressuscité, nous ressusciterons avec lui, hein. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas à en douter, hein. Vous avez des preuves? Non, vous n'avez pas de preuves matérielles. Vous avez seulement une parole qui vous donne de croire que nous, que celui qui vit et qui croit en moi, dira Jésus, vivra quand même, il serait mort. C'est la seule chose que nous avons, mais nous le croyons. Alors il est reparti avec la résurrection d'une enfant. Enfin, Jaïrus a constaté cela. Si Jésus a pu faire le plus, et je vais insister, il peut faire le moins. Une résurrection, c'est le nec plus ultra du miracle et du prodige. C'est même pas un miracle, c'est un prodige. C'est quelque chose qui nous bouscule, c'est quelque chose qui nous renverse dans nos raisonnements. Alors, si il était capable, Jésus a été capable de faire cela, et il l'a pas fait que pour la petite fille de Jaïrus, hein, la veuve de Nain, Lazare, si véritablement ça nous dépasse et c'est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, alors s'il est capable de faire le plus, eh bien pour chacun d'entre nous, il est capable de faire le moins. Et le moins, peut-être, ça sera une guérison, peut-être ça sera ceci et cela. Et pour nous, ça sera déjà quand même quelque chose de formidable et d'un miracle. Vous comprenez ? Le plus, s'il a le pouvoir de ça, il a le pouvoir de des choses qui sont déjà plus en dessous, naturellement. S'il est capable de ressusciter un mort, à combien plus forte raison, Jésus est capable de restaurer la vie quand le souffle de la vie est encore là ? Parce que chez cette petite fille, le souffle de la vie n'était plus là, et il a ramené le souffle de la vie chez cet enfant. Mais vous respirez là en ce moment ? Bon, vous êtes vivant. Bon, tout n'est pas perdu. Hein ? Eh bien, tant que nous avons ce souffle, Seigneur, il est capable encore de nous dire, mais rassure-toi, ne crains point, crois seulement, et quand bien même nous mourions, il était encore capable de faire des choses, l'ineffable, parce que c'est le mot que l'on peut... Avant de terminer, je voudrais dire encore quelque chose. Le pouvoir de transformation, le pouvoir de changer de Jésus, le pouvoir de mettre l'ordre dans le désordre. Parce que la maladie et tout le reste, et tout ce monde, c'est un monde de désordre. Hein. Pas trop, même si les hommes s'évertuent à essayer à bras-le-corps d'essayer de mettre un petit peu les choses dans la droiture, hein, ou un petit peu en ligne, c'est difficile. Dieu est capable de rendre un homme mauvais, bon et juste. Il est capable de rendre un homme malheureux, heureux et joyeux. Dites donc, on a chanté la joie ce matin, non ? Oui, dans le noir. Mais quand même, ouais, c'est ça, hein. Moi, je pense, hein, parce que je l'ai été pendant des années, je pense à tous mes frères et sœurs, jeunes ou moins jeunes, qui sont peut-être animés quelquefois d'un esprit négatif, de mélancolie, où il y a une pesanteur au fond d'eux-mêmes, d'une tristesse. Alors, c'est pas de votre faute, mais on peut être comme ça. Et moi, je pense que le Seigneur nous envoyait son esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a la joie. Et ça, vous pouvez la trouver ce matin. Ouais. Vous n'avez peut-être pas envie de rire, hein. Mais vous allez voir que votre cœur peut sourire et rire. Il peut être joyeux et heureux. Même si tout autour de vous, eh bien, c'est différent. Dieu est capable de faire de quelqu'un sans courage un héros. Alors, allons-y, hein. Seigneur, j'ose pas. Moi, j'ai toujours le bout du pied à sentir s'il y a encore le sable en dessous mes... Vous comprenez ? On n'est pas très courageux quand c'est comme ça. Hein ? Faut pas être téméraire. Mais le courage de Dieu, c'est quelque chose. Il est capable de faire en sorte que quelqu'un qui est un incrédule devienne un homme de foi remarquable. Lisez toute la Bible et vous allez voir des Gédéons, des Moïse, des Abraham et des gens comme ça. Il y en a plein, même dans le Nouveau Testament. Il est capable de faire en sorte qu'un malade devienne un bien portant, etc., etc., car ceci s'appuie sur une parole. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout simplement, faut-il le croire. Seigneur, donne-moi vraiment de le croire. Donne-moi d'être heureux en croyant à ce que tu dis. Ah oui. Alors j'en arrive à Pierre qui a marché sur les eaux, rapidement. Vous savez comment ça s'est passé ? Il y avait le vent, il y avait la tempête et toutes sortes de choses. Ils sont partis en sécurité. Jésus était sur la montagne en train de prier pour eux et il les voyait partir. Jusqu'à ce moment-là, la mer était d'huile, enfin le lac de Galilée, aucune vague. À un moment donné, il nous a dit qu'un tourbillon est venu sur le lac, et là, nos braves disciples de Jésus, c'était tous une grande partie, étaient des matelots, étaient des pêcheurs, et ils étaient chevronnés, ils en avaient eu des coups de tabac et des coups de souffle, hein, plus d'une fois, mais là, c'est la première fois qu'ils avaient vraiment peur de la vie. Parce que de mourir, de couler. Et à un moment donné, ils ont vu quelqu'un qui arrivait. C'était Jésus qui marchait sur les eaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont dit qu'ils ont eu la frayeur. Et ils se sont dit, c'est un fantôme. Vous en avez déjà vu des fantômes? Il y en a partout. Hein. Et ils ont eu là véritablement, ils ont crié, et Jésus s'est approché, il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Jésus nous rassure toujours par sa parole. C'est toujours par sa parole que vous serez rassurés. Quand vous passez des moments difficiles, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Prenez ses promesses. Il nous rassure par sa parole. Et puis Pierre, à ce moment-là, s'est enhardi. Il a reconnu la voix de Jésus. Il a dit, mais si c'est toi, Seigneur, si c'est toi, pas tout à fait sûr, mais si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus de lui répondre aussitôt, eh bien, maintenant, sors de la barque et avance. Et vous savez ce qu'il a fait, Pierre? Moi, je le salue, hein, parce qu'on dira, Pierre, il a coulé, bon, d'accord. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a sorti une jambe. Il a sorti la deuxième. C'est comme la plage. Quand on est dans la barque, même si elle est mouillée, même si elle est prête à couler, on a encore quelque chose des appuis humains. Mais lui, il est sorti les deux pieds, il a commencé à marcher, et il est allé vers Jésus. Alors, on va pas raconter la suite, parce que bon, c'est tout simplement, et ne jugeons pas Pierre, c'est tout simplement ce que nous sommes, en réalité. Quand il a entendu le vent et la vague, et les vagues, il a coulé, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avant. C'est le courage qu'il a eu sur la parole que Jésus lui a dit, viens vers moi, eh bien, il l'a fait, et il a marché sur l'eau. Ce matin, je vous déconseille d'aller au port, après le culte, de faire la même chose. Enfin, en tout cas, vous faites si vous voulez, mais moi, je ne suis pas responsable. Il y a du fond, hein, ici, hein. Attention, hein. C'est pas la foi, c'est la témérité. Il y a des gens qui étaient suffisamment un petit peu dérangés pour le faire, hein. Et même des chrétiens, hein. Voilà. Donc, il a bien marché sur les eaux. Et vous savez, cette foi, elle bannit la peur, parce que notre grand ennemi, c'est la peur. Est-ce que vous êtes arrivé une fois dans votre vie d'avoir peur? Ben, vous avez pas l'air de me répondre beaucoup, hein. C'est pas l'enthousiasme ce matin, hein. Non, moi, je peux traverser au feu rouge, je peux conduire, avec un bandeau sur les yeux quand je suis au volant. Mais la peur, elle est quotidienne, elle est omniprésente, elle est en nous, elle est partout, la peur. Et même quand on est chrétien, et Dieu le sait, mais il nous dit, ne crains point, rassurez-vous, c'est moi, mais crois seulement, tout simplement. Je vais terminer par une histoire. Vous voulez bien? Ben, je ne veux pas la donner parce que vous ne me répondez pas. Mais vous attendez quand même à ce que je vous la donne. Vous avez la foi quand même, hein? Pas dans le Seigneur, mais en moi là, à ce moment. Alors mettez-la dans le Seigneur. Une histoire que j'ai déjà racontée ici, mais que, bon, on va la partager aussi avec ceux qui nous rejoignent, ça peut être intéressant. Une histoire que j'avais entendue il y a des années, ça fait peut-être 25 ans, et elle m'avait vraiment frappé sur le processus de la foi. Alors, elle est toute simple, hein, c'est la foi totale, en quelque sorte, hein, qui nous parle de ce que nous sommes. C'est un gratte-ciel de 70 étages, peut-être plus, je ne sais pas, qui surplombe une ville, comme il y en a. Hein. À Saint-Nazaire, c'est pas ça, on peut pas trop s'en rendre compte, mais si vous allez, par exemple, dans d'autres, à Paris, par exemple, il y a la tour Montparnasse, et puis bon, elles sont pas très hautes chez nous, mais, hein, ou à la Défense, il y en a un petit peu plus, c'est un petit peu plus haut. Et dans ce gratte-ciel, eh bien, il y a des bureaux commerciaux, ou je ne sais pas quoi, qui sont installés tout en haut, au dernier étage. C'est-à-dire, voilà, ça commence à bien faire, hein. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous êtes déjà monté dans un gratte-ciel? Non? Ne me parlez pas si vous êtes monté au deuxième étage d'une maison, c'est pas un gratte-ciel, hein. Mais c'est quand même assez impressionnant. Moi, j'ai fait déjà l'expérience une fois à New York avant que les tours tombent, et puis à Toronto, hein, CN Tower. Et c'est assez impressionnant parce que quand on était à la CN Tower, on marchait sur, il y avait une boule complètement au-dessus. C'était une boule. Et on marchait sur du verre, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de. Et quand on voyait en dessous, ça fait un drôle d'effet, c'est... D'ailleurs, je vous dirais que Myriam allait rester en bord, hein. Elle a pas voulu venir. Enfin, vous lui en parlez pas, elle écoute, mais bon, vous lui dites rien. Elle a jamais voulu y aller, hein. Bon. Et vous marchez sur le verre comme ça, et vous voyez, il y a la gare de Toronto en dessous. Les trains, ils sont grands comme ça. Alors, mais c'est à faire, hein. Parce que c'est quand même vraiment impressionnant. Alors donc, il y avait ces bureaux d'installer au dernier étage, et puis il y avait naturellement, dans les bureaux, il y a des secrétaires. Des femmes, des jeunes femmes, et tout ça, qui travaillent. Et le patron avait mis, parce que bon, c'était occuper l'espace, hein, il avait mis des bureaux au milieu, mais il avait mis des bureaux à la pique du verre. Comme ça. C'est quand même assez, c'est terrible, hein. Contre les baies vitrées, il y avait des bureaux, tout simplement. Elle pouvait toujours dire, oh, moi j'ai une vue formidable, mais elle faisait pas le travail, hein, pendant ce temps-là, hein. Et sous leurs pieds, ou juste À côté d'elle, c'était le vide vertigineux. Alors elle était naturellement effrayée par l'impression vertigineuse de la situation, et toutes les employées, le matin quand on arrivait, c'était remis le soir, mais le matin, elle déplaçait autant qu'elle le pouvait les bureaux au milieu, pour s'écarter naturellement eh bien, de ces vitres, et les tables de travail, et puis les ordinateurs, etc., etc. Et elle s'installait au centre de la pièce, le dos tourné finalement vers l'extérieur, car personne ne voulait et ne consentait à travailler côté vitrage. Alors imaginez-vous, hein, c'était tout tassé les uns sur les autres, mêler les fils, etc., etc., parce que bon, là, elle pouvait avoir un petit peu de sécurité. Et c'était impossible à toutes ces femmes de se concentrer. Alors le patron, il s'est aperçu, il voyait ses employés, c'était un remue-ménage matin et soir. Et il était passablement agacé de cette situation, de ne pas pouvoir faire travailler eh bien son personnel, et il a eu une idée géniale. Pour les rassurer, pour les tranquilliser, et il a fait venir l'architecte concepteur de l'immeuble, celui qui avait fait naturellement eh bien ce travail de building, et ainsi de le faire venir, en le faisant venir, de pouvoir expliquer en détail qu'il n'y avait aucun risque et aucun danger, même si les yeux se portaient dans le vide, même s'il y avait toutes les impressions et les émotions que pouvait causer, eh bien, cette situation, entre ciel et terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il connaissait son matériel, naturellement, il connaissait naturellement les matériaux, pardon. Alors, celui-ci a réuni tout le monde un beau matin, et il se livra à une petite démonstration aussi audacieuse que courageuse. Figurez-vous, il s'est mis au fond de la pièce, du côté là où on rentre, hein, où il y a les couloirs, etc. Il s'est mis au fond de la pièce, contre le mur, tout simplement, et il s'est élancé, il avait fait un dégagement, il s'est élancé de toutes ses forces, l'épaule en avant, tête baissée, vers le vitrage. Et il a recommencé à plusieurs reprises. Et il a refait de plus en plus fort, il a heurté, il a tapé, il a cogné autant qu'il lui était possible avec ses forces, mais le vitrage, la vitre, eh bien, qui était redoutée, elle n'a pas cédé. Et pourquoi elle n'a pas cédé? Alors vous avez déjà trouvé la solution, mais je vais quand même l'expliquer. Imaginez-vous, c'est ce qu'on parlait quand on est sur la plage. La terre ferme, et puis le vide devant. Cet homme qui connaissait bien la structure pour l'avoir naturellement mis en œuvre, les matériaux qu'il avait choisi utiliser, les tests de mise en service qui avaient été validés, avait une absolue confiance, il avait une absolue confiance dans le vitrage. Et ce dernier était si solide et si résistant qu'il ne présentait aucun risque de casser d'aucune façon. Parce que c'était comme ça. Parce que ça avait été fait comme ça. Et remarquez, il vaut mieux pas avoir du vitrage de quelques millimètres quand vous êtes au 70e étage. Parce que ça a été fait comme ça. Et quelquefois, c'est assez étonnant quand on voit ces grands immeubles. Je crois que le plus grand au monde, il se trouve à Dubaï, hein, il me semble. Hein, ou au Qatar, ou au Koweït, enfin, je ne sais plus, pas au Koweït, mais voilà. Il fait 800 et quelques mètres, 850 mètres la tour. Hein. Faudrait qu'un jour, on aille faire un culte là-bas. Tiens, ça serait intéressant. Mais quoi qu'on ne nous donnerait pas l'autorisation, parce que les chrétiens ne sont pas forcément bien vus. Mais bon, ceci dit, hein, en tous les cas, c'est quand même assez impressionnant. Après cet exercice, qui était pour le moins insolite, tout le personnel a été convaincu, il était rassuré, il était en confiance, et il a retrouvé sa place, et maintenant, les filles qui travaillent dans les bureaux, ça serait à qui? Eh bien, serait le plus près du vitrage pour avoir la belle vue. Le Seigneur nous prépare une belle vue, hein. Il nous prépare des choses extraordinaires et merveilleuses, vous croyez ça? Ouais. Vous savez, Jaïrus, quand il a vu la vie de sa fille, qui était ressuscitée, quelle vue! Et pour chacun d'entre nous, le Seigneur voudrait nous émerveiller. Il voudrait véritablement que nous soyons encore sensibles à l'émerveillement de ce qu'il est capable de nous donner, de faire pour nous, lorsque nous le faisons, une totale et complète confiance. Je termine par cette parole. C'est parole d'un psaume. Écoutez bien. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Ça vous arrive pas de chanter celui-ci? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est en toi seul que nous mettons notre espérance. Seigneur, tu veux nous conduire vers le meilleur. ce que tu nous as appris ce matin, c'est l'excellence de la foi. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes qui véritablement désirons, expérimentons, vivons l'excellence de la foi. La Bible est un livre merveilleux. Et nos vies, à travers ce livre et la foi que nous puisons dans ce livre, veut que notre vie soit des vies merveilleuses, que nous soyons des Jaïrus, ceux qui éclairent. Ouais, ceux qui éclairent les autres, ceux qui sont encore dans le noir, ceux qui ont peur, ceux qui ne sont pas rassurés, ceux qui sont timides, ceux qui sont timorés. Nous sommes des Jaïrus. Et qu'ainsi, eh bien, nous puissions véritablement continuer à communiquer ce formidable message de l'espérance et de notre Dieu glorieux. Que Dieu nous bénisse. On prie quelques instants. Vous n'avez pas peur? Vous êtes rassurés? Eh bien, on va bénir le Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ces paroles qui peuvent paraître parfois, eh bien, tellement audacieuses, voire même irréelles. Mais Seigneur, y aurait-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel, de la part de notre Dieu? Oui, Seigneur, car Dieu est pour nous un refuge et un appui dans les temps de la détresse. Merci pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Merci, Seigneur, donne-moi de pouvoir, en effet, comme le prophète de l'Ancien Testament, de pouvoir aller de l'avant dans la foi et dans la grâce, d'avoir de l'eau jusqu'aux pieds, d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux, d'avoir de l'eau jusqu'à la taille, et puis de pouvoir après nous élancer, Seigneur, être porté par ta main, parce que nous savons que tu as rappelé deux principes. C'est celui de la vie de l'esprit qui est la force de Dieu et la puissance de Dieu. Et le deuxième principe, c'est parce que tu nous aimes. Dieu nous aime. Alors merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.